Audible Studio présente L'épée de vérité, livre 11, L'ombre d'une inquisitrice, de Terry Goodkind, traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet, lu par Vincent Deboire. À mon cher ami Mark Masters, un homme à l'esprit remarquablement créatif et à la détermination sans faille. Parfaite illustration des thèmes qui me tiennent à cœur, il montre qu'un individu, grâce à sa joie de vivre, sa dignité de tous les instants et sa force paisible dénuée de haine, peut incarner aux yeux de tous ceux qui le connaissent la noblesse de l'esprit humain. Chapitre 1er. Pour la deuxième fois cette nuit-là, une femme venait de poignarder Richard. Réveillé par la douleur, il saisit le poignet de la furie afin de l'empêcher de lui ouvrir largement la cuisse. Une robe défraîchie boutonnée jusqu'au col couvrant son corps étique, la femme portait un fichu taillé dans un carré de tissu tout effiloché. À la lueur lointaine des feux de camp, Richard vit que cette tueuse potentielle, malgré ses joues creuses et sa maigreur maladive, avait le regard d'un oiseau de proie. La femme qu'il avait attaquée un peu plus tôt, toujours dans son sommeil, était plus en chair et beaucoup plus forte, mais son regard aussi brûlait de haine. La lame que maniait la seconde femme était plus petite que celle de sa collègue. Telle qu'elle, une fois recousue, la blessure serait longtemps douloureuse. Mais si le coup avait pu trancher le muscle sur presque toute sa longueur, l'intention de la tigresse à voir la façon dont elle tenait son arme, les dégâts auraient été bien plus graves. Dans l'armée de l'ordre, on ne s'encombrait pas d'esclaves éclopés. Une exécution sommaire aurait guetté Richard, et c'était sûrement le plan originel de la femme. Ne pas le tuer, mais provoquer sa mise à mort. Serrant les dents de colère tandis qu'il tenait le poignet de la tueuse dans son poing, le sourcier lui tordit le bras pour la forcer à retirer la lame de la plaie. Lorsque ce fut fait, une goutte de sang tomba de la pointe acérée. Richard n'avait aucun mal à maîtriser son adversaire. Contrairement à ce qu'il craignait, il ne s'agissait pas d'une tueuse entraînée. Sa soif de sang, cependant, ce désir vicieux d'ôter la vie à une proie, était aussi forte que celle des barbares qu'elle suivait depuis le début de leur terrible campagne. Quand elle gémit de douleur, alors que le souffle des deux adversaires se transformait en nuages de buée dans l'air froid de la nuit, Richard résista à la tentation de se montrer clément. S'il la ménageait, la femme saisirait la première occasion de finir son sale boulot. L'effet de surprise avait joué en sa faveur et il n'avait pas l'intention de lui donner une seconde chance. Avec les enragés de ce genre, il aurait fallu être d'une stupidité crasse. Lui tenant toujours le poignet, il entreprit d'arracher son arme à la femme. Et tant que ce ne fut pas fait, il continua à lui tordre le bras. Sans le moindre effort, il aurait pu le lui casser, une punition amplement méritée. Mais ce n'était pas le moment de se retrouver avec une hystérique sur les bras. Qu'elle lui fiche la paix suffirait largement. Dès qu'il l'eut désarmée, Richard la poussa en arrière. Par miracle, elle réussit à ne pas s'étaler sur le sol.
« Vous ne battrez jamais l'équipe du Grand Jagang le juste !»
cracha-t-elle.
« Vous n'êtes que des chiens. La vermine du Nouveau Monde ne peut rien contre nos glorieux champions !»
Gardant un œil sur la furie, au cas où elle sortirait de sous sa robe un second couteau, Richard regarda autour de lui en quête d'éventuels complices. Il remarqua quelques soudards au-delà du cercle de chariots de l'intendance, mais ils semblaient vaquer à leurs occupations sans se soucier de ce qui arrivait à la femme au fichu. Quand elle fit mine de lui cracher dessus, littéralement cette fois, Richard bondit comme s'il voulait l'attaquer. Criant de terreur, elle recula vivement. Sans doute parce que affronter un homme réveillé et apte à se défendre ne lui disait rien qui vaille, elle eut un dernier regard furibond, se détourna et disparut dans la nuit. La chaîne fixée au collier que le sourcier portait autour du cou était bien trop courte pour qu'il ait pu atteindre la furie. Mais s'il le savait, elle ne s'en était pas aperçue et la menace imaginaire avait suffi à la décourager d'insister. Même au milieu de la nuit, le camp où la femme s'enfonçait furtivement grouillait d'activité. Telle une énorme bête affamée, il l'engloutit en quelques instants. Pendant qu'une partie de leurs camarades dormait, des soldats réparaient ou nettoyaient du matériel, entretenaient ou fabriquaient des armes, cuisinaient ou s'empiffraient. Attendant la prochaine occasion de tuer, de violer et de piller, des centaines de soudards, assis autour des feux de camp, échangeaient des histoires salaces en vidant force pintes de bière. De ci, de là, des costauds se battaient en duel, histoire de déterminer lequel était le plus fort. Livrés à main nue ou à l'arme blanche, ces combats faisaient chaque jour des dizaines de victimes. Loin de s'en inquiéter, les soldats n'en rataient pas un, pariant des sommes folles sur l'identité du vainqueur et le sort qui attendait le vaincu. Entre les gardes qui patrouillaient sans cesse, prêts à intervenir en cas de problème vraiment grave, les soudards en quête de distraction et les civils des deux sexes disposés à leur en fournir, le camp de l'armée de l'ordre ne dormait jamais pour de bon. De temps en temps, des curieux venaient jeter un coup d'œil à Richard et à ses compagnons de captivité. Au-delà des chariots, Richard put suivre le manège d'une poignée de civils qui cherchaient désespérément à obtenir un peu de nourriture ou une pièce de cuivre. Passant de groupe en groupe, ils proposaient de jouer de la flûte ou de chanter pour les guerriers. D'autres offraient de les coiffer, de les raser, de s'occuper de leurs vêtements ou de leur faire de somptueux tatouages. Le plus souvent, au terme d'âpres négociations, les femmes finissaient par entrer sous une tente en compagnie de quelques soudards en verve de lubricité. Une partie des hommes, en revanche, cherchait des pigeons à détrousser. Et parmi ces prédateurs, plus d'un était parfaitement disposé à tuer. Au centre du cercle de chariots, Richard était enchaîné avec un groupe de prisonniers venus participer au grand tournoi de Djala. La plupart des coéquipiers du sourcier étaient cependant des soldats réguliers. Du coup, ils avaient le droit de dormir sous une tente réglementaire. Toutes les villes gouvernées ou conquises par l'ordre impérial avaient leur équipe de Djala. Enfants, les soldats avaient appris à jouer dès l'instant où ils savaient marcher. Après la guerre, ils espéraient pratiquement tous faire une carrière dans le sport préféré de l'ancien monde. Pour eux, le Djaladijin, le jeu de la vie, était une cause quasiment aussi importante que l'idéologie de l'ordre. Tout le monde partageait leur passion. Et comme le prouvaient les deux récentes mésaventures de Richard, les vrais supporters étaient prêts à tuer pour aider leur équipe à gagner. Comme les cités, les différents corps d'armée, voire les régiments, s'enorgueillissaient d'avoir une équipe victorieuse. Le général Karg, pour qui jouait l'équipe de Richard, n'était pas insensible non plus aux résultats. Pour lui, les triomphes sportifs n'étaient pas seulement une affaire de gloire. Les entraîneurs des meilleures équipes en tiraient une extraordinaire puissance. Quant aux joueurs, ils devenaient des héros couverts d'or et poursuivis par des légions de femmes prêtes à tout pour partager leurs couches. La nuit, Richard et ses camarades étaient enchaînés aux chariots-prisons dans lesquels ils voyageaient. Mais sur le terrain, le sourcier était le marqueur de l'équipe, autrement dit l'attaquant de pointe, et le général Karg comptait sur lui pour briller tout particulièrement lors du tournoi qui se déroulerait dans le camp même de l'empereur. La vie de Richard dépendait de ses prouesses sportives, et jusque-là il s'en était remarquablement bien tiré. Ayant à choisir entre une exécution sordide et un poste dans l'équipe, le jeune homme n'avait pas hésité très longtemps. Mais le désir de survivre n'était pas et de loin sa seule motivation. Il y en avait d'autres, et qui comptaient beaucoup plus à ses yeux. Tournant la tête, Richard vit que son ami Léo Le Roc, enchaîné au même chariot que lui, ronflait comme un sonneur. Meunier de profession, Léo était bâti comme un chêne et fort comme un taureau. Mais plus important encore, c'était un fin connaisseur du Djala. Contrairement aux autres marqueurs, Richard imposait des entraînements quotidiens à ses équipiers. Certains de ses joueurs n'appréciaient pas, bien entendu, mais ils ne discutaient pas ses ordres. Même dans leur cage, alors qu'ils se dirigeaient vers le camp de l'empereur, Richard et Léo avaient passé des heures à discuter du jeu. Non contents d'analyser leurs erreurs et de mettre au point de nouvelles stratégies, ils avaient réussi, dans un espace pourtant exigu, à se maintenir en forme grâce à une série d'exercices. Trop épuisé pour entendre le raffut perpétuel du camp, le Roc dormait comme un bébé, ignorant que des fanatiques, alarmés par leur réputation, rôdaient dans la nuit avec l'intention de les neutraliser avant même le début du tournoi. Très fatigué lui-même, Richard avait pourtant somnolé de manière irrégulière. Ces derniers temps, il avait du mal à dormir. Et pas à cause de sa situation présente, ni du tour plutôt inquiétant que prenait la guerre. Non, il s'agissait de quelque chose d'intime, un malaise permanent, insidieux et lancinant. Comme à l'époque où il avait été très malade, la fièvre menaçant de le tuer? Peut-être bien, mais pas vraiment en réalité. Si fort qu'il tente de l'analyser, son mal-être échappait à sa compréhension. Cela dit, harcelé sans cesse, il finissait par en perdre la santé et le goût de vivre. En plus de ça, il y avait Kalan, prisonnière de Jagang non loin de là. Comment aurait-il pu dormir en la sachant exposée en permanence au danger? Certains soirs, alors qu'il veillait avec Nietzsche autour d'un feu de camp, l'ancienne maîtresse de la mort s'était laissée aller à des confidences sur Jagang et les traitements indignes qu'il lui infligeait. Aujourd'hui, ses récits hantaient le sourcier. De sa position, il ne voyait pas les quartiers de Jagang, mais plus tôt dans la journée, en arrivant au camp, il avait aperçu le grand pavillon entouré à distance respectueuse de tentes d'officiers. En passant, il avait vu Kalan et réussi à plonger son regard dans ses magnifiques yeux verts. Un moment fugace mais suffisant pour remplir de joie et de soulagement l'âme du sourcier. Après une si longue absence, il avait enfin retrouvé sa bien-aimée vivante. Maintenant, il ne restait plus qu'à l'arracher aux griffes de Jagang. À peu près sûr que la seconde furie ne rôdait plus dans les environs, Richard baissa les yeux sur sa blessure. Rien de bien terrible, à dire vrai. S'il avait dormi comme une masse, à l'instar de Léo Le Roc, il ne s'en serait sûrement pas sorti à si bon compte. En d'autres termes, l'étrange sensation qui l'empêchait de fermer l'œil venait de lui sauver la mise. Si douloureuse qu'elle fût, sa blessure à la jambe n'avait rien de grave. En la comprimant, il avait enrayé l'hémorragie et c'était l'essentiel. L'autre plaie à l'omoplate lui faisait également un mal de chien, mais elle aussi guérirait vite. Par bonheur, la lame de la première tueuse avait glissé sur l'os, n'atteignant aucun organe vital. La mort avait rendu deux visites à Richard, et par deux fois, elle était repartie les mains vides. Mais que disait-on déjà ? Jamais 203 ? Il espérait bien que ce ne serait pas le cas pour cette nuit. Alors qu'il venait de s'allonger, se tournant sur le côté avec l'espoir de trouver le sommeil, Richard vit une ombre slalomée entre les chariots. Mais ce visiteur-là n'avait rien de furtif et il vint d'un pas décidé se camper devant le sourcier. Le général Karg. Avec la moitié droite du visage tatoué. Des écailles afin de lui donner des faux airs de reptile. En pleine nuit, l'homme était torse nu, une preuve qu'on venait de le tirer du sommeil. Pour la première fois, Richard vit que son épaule droite et sa poitrine, sur tout un côté, portaient le même tatouage. Entre eux, le sourcier et Léo avaient affublé le général d'un surnom, le Crotal, qui lui allait décidément à merveille.
« Qu'as-tu donc à l'esprit, Ruben ?»
demanda Karg. Depuis qu'il était prisonnier, Richard se faisait appeler Ruben Ribnik, un clin d'œil à Zed, son grand-père qui avait naguère utilisé ce pseudonyme. Une saine précaution dans un environnement où son vrai nom, si on l'avait connu, aurait suffi à lui valoir une mort lente et douloureuse. « Pour le moment, général, je cherche surtout à dormir. »
Tu n'as pas le droit de forcer une femme à coucher avec toi. Ta dernière victime est venue me raconter tes turpitudes.
Sans blague.
Je te l'ai déjà dit et je le maintiens. Si tu bats l'équipe de Jagang, tu pourras te choisir une femme. En attendant, pas de dérogation à la règle. Je ne tolère pas qu'on me désobéisse, surtout la vermine dans ton genre.
Général, j'ignore ce qu'elle a voulu vous faire gober, mais en réalité, cette femme espérait me tuer pour assurer la victoire des joueurs de Jagang. Karg s'agenouilla et dévisagea longuement le marqueur de sa précieuse équipe de Jala.
Tu mens très mal, Ruben.
Richard avait toujours sur lui le couteau pris à la tueuse. Pour l'heure, il le gardait dissimulé le long de son poignet, à la faveur de la pénombre. À cette distance, il aurait pu éventrer le général si vite que cet imbécile serait mort sans savoir d'où venait le coup. Mais ce n'était pas le moment. Parce que ça ne le rapprocherait pas de Kalan, bien au contraire. Sans cesser de regarder le général, Richard prit la lame du couteau entre le pouce et l'index. Désolé de devoir se séparer d'une arme, même si ridiculement petite, il la tendit à Karg, manche en avant.
« C'est pour ça que ma jambe saigne.
Cette menteuse m'a frappé avec le couteau que voici. Où m'en serais-je procuré un si je mentais ?
Après avoir jeté un coup d'œil à la plaie sur la cuisse du prisonnier, Karg se saisit du couteau. Visiblement, il n'était pas mécontent d'être toujours de ce monde.
« Général, si vous voulez remporter le tournoi, il faut que je puisse me reposer. Quelques gardes me permettraient de dormir sur mes deux oreilles. Si une furie réussit finalement à me tuer, votre équipe n'aura pas une chance sans son attaquant de pointe. »«
Tu as une haute opinion de toi-même, pas vrai, Ruben ?»«
Un point de vue que nous partageons, général. Sinon, pourquoi m'auriez-vous épargné à Tamarang après que j'ai taillé en pièces bon nombre de vos hommes ?»
Karg prit le temps de la réflexion, puis il soupira.
« On dirait que le marqueur n'est pas seulement exposé sur le terrain. »
Il se releva.
« Tu auras une sentinelle, mais n'oublie pas que beaucoup de gens doutent de ton génie. Après tout, notre équipe a perdu une fois depuis que je t'ai recruté. »
Une défaite déplaisante, certes, mais parfaitement explicable. Pour sauver un de ses joueurs, un prisonnier nommé York, Richard avait négligé de défendre son terrain. Très bon technicien, York avait été la cible des joueurs adverses durant toute la partie. Finalement, ils avaient réussi à lui casser une jambe. Dans la version impériale du Jala, aucune règle n'interdisait les agressions de ce type. Avec sa jambe cassée, York avait perdu toute sa valeur de joueur et d'esclave. Après qu'on l'eût porté hors du terrain de jeu, Karg l'avait égorgé sans cérémonie. Pour avoir voulu protéger un joueur, interrompant ainsi l'action, Richard avait été exclu jusqu'à la fin de la rencontre. À cause de cette décision d'arbitrage, l'équipe du sourcier avait perdu la partie.
Selon ce que je sais, l'équipe de Jagang a elle aussi perdu une rencontre.
Certes, mais le juste a fait exécuter tous les coupables, et sa nouvelle équipe réunit les meilleurs joueurs de l'ancien monde.
Nous perdons aussi des joueurs, pour une multitude de raisons, et tous ont été remplacés. Les blessures sont très fréquentes, vous le savez bien. Dernièrement, un de mes équipiers s'est cassé la jambe. Avec les perdants, vous êtes aussi dur que Jagang, général. Pour moi, l'identité des joueurs ne compte pas. Une partie perdue pour les gars de Jagang et une pour nous. L'égalité parfaite, quoi. C'est tout ce qui compte pour moi. Nos chances sont égales et personne n'est en mesure de nous vaincre à coup sûr.
Tu te crois à la hauteur des champions de Jagang ?
Richard ne capitula pas, soutenant sereinement le regard de son chef.
« Je vais nous qualifier pour la finale, général, et nous verrons bien comment tourneront les choses. »«
Tu tiens tant que ça à te choisir une femme, Ruben ?»«
Plus encore que vous l'imaginez, général. »
Karg n'avait aucune possibilité de comprendre le discours à double sens de Richard. Il voulait Callan, et tout le reste à ses yeux ne comptait presque pas. Pour libérer sa femme, il était prêt à tout, y compris à devenir le plus grand joueur de Jala de tous les temps.
Karg finit par capituler.
D'accord, tu auras des gardes, et ils répondront sur leur vie de la sécurité de mes joueurs. Ça te va ?
Quand le général s'en fut allé, lui aussi englouti par la nuit, Richard s'étendit de nouveau, laissant se détendre ses muscles douloureux. Dans le lointain, des soudards organisaient déjà un périmètre de sécurité autour des chariots. Convaincu du danger par l'épisode du couteau, Karg était passé à l'action avec toute son efficacité coutumière. Grâce à la furie au fichu, Richard allait pouvoir se reposer. Quand on ne craignait plus de se faire égorger dans son sommeil, récupérer des forces se révélait beaucoup plus facile. Pour le moment, Richard était en sécurité, même s'il regrettait d'avoir dû se séparer du couteau, mais il lui restait celui de la première femme, soigneusement dissimulé dans sa botte. Transi de froid, Richard se roula en boule sur le sol glacé. Sans sac de couchage ni couverture, il dut utiliser sa chaîne, plusieurs fois repliée, pour s'improviser une sorte d'oreiller. L'aube n'était plus très loin, mais il ne ferait plus chaud avant longtemps dans les plaines d'Azrit. Rien que de très normal le premier jour de l'hiver. Oubliant le vacarme du camp, Richard pensa à Callan. Le souvenir de leur première rencontre, très bizarrement superposé aux courts instants où il l'avait aperçu la veille, ramena dans son cœur quelque chose qui ressemblait à de la quiétude. Bercé par cette bienheureuse sérénité, le sourcier s'endormit enfin.